France Inter.
Aujourd'hui, fermentation, pourquoi le moisi nous fascine ? Raconté par...
Anne-Sophie Moreau, philosophe et rédactrice en chef à Philosophie Magazine.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En mai dernier, l'auteur Jean-Philippe Raffard racontait sur le site du magazine en ligne Génération Vigneron sa visite d'une fête de la fermentation à Nantes, au lieu dit l'Agronaute. Cette ferme urbaine et récréative, située à deux pas de la Loire, accueillait donc le petit monde fermentaire. Le journaliste commence sa visite chez Esther et Guita, qui animent un atelier de lactofermentation. Rien à voir avec les produits laitiers. Il s'agit d'une technique ancestrale de conservation des aliments sous l'action des bactéries lactiques. Dans un curieux petit bocal, on trouve du chou rouge, de la pomme, du raisin sec, du gingembre et du sel, avec un goût de chutney umami recommandé pour relever les viandes blanches. Alexia et Alexa sont au stand voisin. Les deux trentenaires ont créé Fermenting & Co, une ferme de fermentation basée au Sable d'Olonne en Vendée. Ils ont monté il y a 2 ans une micro-brasserie de boissons fermentées pour répondre à la demande de boissons saines, moins sucrées et sans alcool. L'affaire a démarré très vite avec leur produit phare, le kombucha, cette boisson millénaire d'origine asiatique, réalisée à partir de la fermentation de thé et de sucre par une symbiose de bactéries et de levures. Leur gamme de kombucha est déjà bien fournie. Dans le tonic, par exemple, on trouve un assemblage de thé vert et noir, de citron jaune, de gingembre, de curcuma frais bio, auquel on ajoute la souche ou mère du kombucha qui déclenchera la fermentation. Ça picote un peu en bouche. Le stand Au Bocal, boutique bio, vrac, local, zéro déchet, propose quant à lui un voyage en Corée autour de ces variétés de kimchi fait maison. Reconnaissable par sa couleur rouge au corail, le kimchi est une préparation à base de légumes, principalement de choux fermentés et épicés. Reconnu pour ses vertus diététiques omniprésents dans la cuisine européenne, dans la cuisine coréenne, pardon, ce mets lacto-fermenté est reconnu depuis 2015 par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine immatériel de la Corée du Sud et du Nord. En regardant de plus près les ingrédients du kimchi, on voit que le chou fermenté est majoritaire, mais bien sûr, conclut Jean-Philippe Raffard, pas besoin d'aller si loin puisque notre kimchi français s'appelle la choucroute. Les fêtes de la fermentation se multiplient partout dans le monde, mais qu'est-ce qui explique cette fascination et cet engouement ? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Mais elle est bien équilibrée, pas trop acide, pas trop sucrée. Mais elle manque de pétillant, donc elle va pétiller un petit peu plus d'ici quelques temps. Pour préparer le kombucha, il faut évidemment un ferment, qu'on le voit là, qui est bien épais, et du liquide fermenté. Ça, c'est le liquide que l'on boira, c'est du thé fermenté, voilà.
Les secrets du kombucha, extrait d'un reportage de France 3 en 2013. Bonjour Anne-Sophie Moreau.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions du Seuil Fermentation, Kéfir, Compost et Bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine ? Et c'est vrai que de Nantes à Nashville, en passant par les Vosges et Montréal, les fêtes, par exemple, de la fermentation seraient de plus en plus nombreuses. Ça, vous l'avez observé ?
Oui. En fait, l'idée de ce livre m'est venue un jour où j'attendais un avion. À l'époque, j'y vais à Berlin. Et dans l'aéroport, qui est le lieu par excellence aseptisé, moderne, où ne prolifère a priori aucune vie, je cherchais de quoi boire et je me suis acheté une bouteille de kombucha à la buvette. Déjà, je me suis étonnée qu'on n'y vende pas du coca, mais qu'on y vende plutôt ce qui était présenté comme une boisson vivante. Et il se trouve qu'en parallèle, je discutais par message avec un ami qui, à l'époque, travaillait pour la mairie de Paris à généraliser la pratique du compost dans la ville. Et à l'époque, je lui ai dit un peu en riant, je lui ai dit en fait nous entrons dans la société de fermentation, c'est-à-dire que c'est comme si nous étions en train d'essayer de nous réconcilier à la fois avec les microbes, voilà, tous ces micro-organismes, ces bactéries, ces champignons qui peuplent nos entrailles, mais aussi en train d'essayer de retrouver une forme de vie, par exemple dans une ville aussi minérale que Paris, dans les artères de la civilisation moderne. Et la question que je me suis posée, et qui depuis n'a pas cessé de m'obséder, c'est pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour le micro-vivant
dans
toutes ses formes.
C'est ça, vous parlez d'une obsession pour les micro-organismes. Alors, c'est quoi ? C'est une énième mode culinaire ou est-ce que c'est un mouvement plus profond qu'il n'y paraît à votre avis ?
Alors, pas que. Effectivement, il y a toute la mode des aliments fermentés, il y a des festivals de fermentation, de micro-brasseurs, de gens qui font du pain au levain, du kombucha, etc. chez eux. Mais il y a aussi un regain d'intérêt pour les micro-organismes qui s'exprime et qui est véritablement exploité dans tout un tas de domaines. Par exemple, en architecture, on réfléchit à comment la NASA essaye de faire, par exemple, pousser des bâtiments à partir de mycélium, cette partie souterraine des champignons. Il y a des designers aussi qui travaillent avec cette même matière, cette matière vivante qui est censée remplacer le plastique, le béton, tout un tas de matériaux dont on aimerait bien se débarrasser. Il y a aussi en agriculture le recours au compost, encore une fois, mais aussi, par exemple, il y a des start-up qui essayent de remplacer la viande par des préparations à base de bactéries, c'est ce qu'on appelle la fermentation de précision. Mais aussi Michelin, Danone, tout un tas de grandes entreprises qui essayent de remplacer tous les matériaux de l'industrie par, finalement, des matières vivantes.
Est-ce que cet intérêt pour la fermentation, vous arrivez à identifier à quel moment finalement ça a commencé ? Et est-ce que la crise du Covid, par exemple, a joué un rôle dans ce que vous décrivez comme un glissement collectif vers la fermentation ?
Alors c'est difficile de le dater précisément, ça date d'avant.
D'autant que c'est des pratiques ancestrales, hein, en
bien
réalité.
Bien sûr. Hein. Alors la fermentation, c'est-à-dire le fait de vouloir pouvoir conserver des aliments, de les stabiliser par une forme de dégénérescence maîtrisée, ça a toujours existé, ça existe encore dans la plupart des pays. Mais moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était le fait que dans des pays développés, très technologisés, très aseptisés, marqués par la révolution pasteurienne, pour le dire rapidement, c'est l'Occident, hein, mais voilà, c'est-à-dire tous ces festivals de fermentation, on les retrouve aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, en Allemagne ou encore au Japon, dans des pays voilà, à fort développement technologique où, a priori, on a des réfrigérateurs, des congélateurs et on maîtrise les techniques de conserve. Donc, a priori, on n'a pas besoin de faire appel à la fermentation. Et pourtant, ces pays se réintéressent à cette technique. Et donc, c'est toute la question qui se pose, en fait. C'est-à-dire, est-ce que finalement, nous serions... Parce que nous sommes des sociétés vieillissantes qui ont peur d'un déclin réel ou fantasmé, est-ce que nous serions en train d'essayer finalement de nous réconcilier avec le moisi, de stabiliser la dégénérescence pour apprendre à faire face à une mort certaine ? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous sommes en train d'essayer d'y puiser une forme de régénération et de nos corps et de nos sociétés ?
Vous convoquez quasiment le divan là, hein, pour cette histoire, en tout cas pour essayer de comprendre cet intérêt renouvelé, en tout cas pour les fermentations.
Oui, c'est comme s'il y avait une forme de nouvelle religion du ferment.
Carrément.
Avec ses rites, avec ses fêtes. On l'observe par exemple dans le rapport qu'ont les gens à leur levain, à leur mère de kombucha, comme on l'appelle, ou à leur grain de kéfir. Je me suis rendu compte, lorsque j'en discutais avec des amis, que les gens, par exemple, parlent de leur grain de kéfir ou de leur levain, comme si c'était des animaux domestiques, voire même des membres de la famille. On les soigne, on les nourrit, on leur donne à manger.
On les échange aussi, on verra que c'est important.
Oui,
on
y reviendra.
Dans la démarche.
Dans les pays anglophones, on parle de sourdough-sitters, l'équivalent des babysitters pour le levain. Donc, en fait, ce qui, moi, me semble fascinant, c'est qu'il y a, en fait, une sorte de culte de cette forme de vie à la fois fragile mais en même temps éternelle qui se renouvelle en permanence. Le ferment, il ne s'achète pas aussi parce qu'il se multiplie, parce qu'il prolifère. Et il me semble que dans un monde où nous avons le sentiment en tant qu'espèce humaine d'avoir abîmé les conditions de la vie sur Terre, il semble que nous ayons besoin de chérir ces nouvelles formes de vie que nous percevons comme peut-être une voie pour faire finalement revivifier, retrouver la vie.
Bon, ça c'est votre hypothèse, votre proposition. En tous les cas, on va demander d'ailleurs aux auditeurs et aux auditrices ce qu'ils et elles en pensent avec vos témoignages évidemment sur la page de la Terre au Carré. Et puis vous rappelez évidemment que le fermenté ne traverse pas que l'alimentation. Hein. Il y a effectivement la médecine, l'économie, le design, vous parlez de l'architecture, la cosmétique également. Les bactéries peuvent rendre belle ou beau. Il y a des marques de luxe qui utilisent du bifidus dans des sérums anti-rides, et donc ces micro-organismes que l'on retrouve évidemment les plus connus dans les yaourts, les fromages ou la choucroute, on en parlait tout à l'heure. Voici un extrait d'une archive de l'ORTF en 1966.
Alors maintenant, monsieur, nous allons assister à la transformation du chou en choucroute.
Oui, alors là, vous voyez une cage qui arrive à proximité des machines. Alors ici, le chou coupé est réparti par couche uniforme et ensuite salé.
Combien de temps reste-t-elle en cuve, la choucroute ?
Eh bien, cette saison, en 3 semaines, 1 mois, la choucroute est prête à être consommée.
Voilà, la choucroute, c'est notre kimchi français, en fait, c'est ça.
Oui, on peut l'appeler ça comme ça.
Et donc, on fait ça depuis très longtemps, en réalité. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, ce sont
c'est pas juste une mode de bobo parisien.
Ah non, absolument pas. Ce sont des méthodes ancestrales. Mais il y a, pour le coup, une nouvelle mode à la fois de bobo parisien, mais aussi de néo-ruraux décroissants, mais aussi de, vous voyez, de start-uppers, etc. Moi, ce qui me semble fascinant, c'est que cet intérêt pour les micro-organismes, il naît dans tout un tas de milieux. Voilà, très différent finalement.
Et même dans le domaine de la recherche, puisque en 2022 était lancée l'opération Ferment du futur, dotée de près de 50 millions d'euros pour accélérer la recherche et l'innovation dans le domaine des ferments et des aliments fermentés. Donc c'est-à-dire que même l'État s'y met hein, en finançant ces démarches.
Oui, tout à fait. En fait, le but de cette démarche, qui est assumée et revendiquée comme telle, c'est de viser une forme d'autonomie alimentaire. Et ça, c'est un point aussi qu'on l'on retrouve chez les gens qui se sont mis, par exemple, à faire du pain ou levain, à faire fermenter du kombucha, etc.
C'est cette idée de l'autonomie.
Notamment pendant la crise du Covid. C'est que, finalement, dans nos sociétés que nous avons longtemps vues comme des sociétés d'abondance où finalement le système agroalimentaire et sa logistique parfaite et c'est censé nous livrer en permanence des produits tout faits à intervalles extrêmement réguliers, nous nous sommes rendus compte brutalement qu'un petit grain de sable dans ces rouages parfaits de l'industrie agroalimentaire pouvait finalement mettre à bas tout ce système et que nous étions assez fragiles face à des pénuries possibles. Et donc, il y a eu véritablement un regain d'intérêt pour ces formes d'alimentation aussi, parce qu'on s'est dit que ça nous permettrait de survivre peut-être aussi un jour en cas de catastrophe écologique, qui sait. Et dans le cas de l'État et de ces start-up qui essayent par exemple de remplacer la viande par du fermenté, il y a l'idée qu'on doit essayer de réduire notre impact carbone et de nous rendre autonomes dans un contexte aussi où on essaye de retrouver une forme de souveraineté alimentaire dans un contexte évidemment de guerre et de tensions géopolitiques très fortes.
Anne-Sophie Moreau, nous traversons avec vous le monde de la fermentation. Dites-nous de l'autre côté du poste ce que vous inspire cette tendance. Est-ce que vous êtes vous aussi des amis du moisi, on en parle dans un instant et nous attendons vos messages sur la part de l'émission et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
L'écologie microbienne, c'est connaître toutes les flores qui nous habitent et les facteurs d'équilibre. Car en fait, l'écologie, c'est cela. Tout le monde sait qu'il y a une écologie d'un terrain, d'une chasse, d'un pays, d'un milieu marin. Mais nous sommes un système nous-mêmes. Et il est important de savoir qui nous habite et pourquoi ces gens qui nous habitent nous fichent-ils la paix.
Et ça, c'est en 1977, le docteur Raymond Villain de l'hôpital Boussicaut dans l'émission Aujourd'hui, Madame, qui nous parle, Anne-Sophie Moreau, d'une écologie du corps. Au fond, c'est intéressant cette notion parce qu'elle n'était pas très développée en 77. Hein. On en était vraiment aux prémices du microbiote, là.
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin passé, finalement, depuis les découvertes. Alors, la fermentation, on en a toujours fait, mais on ne savait pas comment elle fonctionnait. Finalement, c'était un processus qui était considéré comme assez mystérieux, voire même un peu dangereux. Il y avait un certain dégoût aussi pour les produits fermentés, le fromage, etc. C'était considéré comme des matières putrescentes, voilà, au bord de la décomposition. Et ce n'est qu'avec Pasteur, finalement, que l'on a découvert le rôle des micro-organismes, des bactéries, etc., mais aussi le fait qu'ils constituent un danger pour l'homme. Voilà, c'est le moment où on a découvert l'asepsie, voilà, l'importance, c'est le moment où on a découvert le fait que, par exemple, les médecins devaient se laver les mains avant d'aider les femmes à accoucher. Donc, il y a eu la révolution pasteurienne, et aujourd'hui, on assiste finalement à une forme de révolution post-pasteurienne, comme on l'appelle. Voilà, aux États-Unis, les gens redécouvrent les vertus des fromages au lait cru, alors qu'ils ont été interdits, ils le sont toujours d'ailleurs.
Donc c'est un autre regard sur le microbe, quoi, finalement.
C'est un autre regard sur le microbe qui est considéré non plus comme un ennemi, mais comme un allié. Voilà. Alors moi, par exemple, lorsque j'ai accouché, je me suis intéressée au fait que, par exemple, on vous dit qu'il est important d'accoucher par voie basse pour que votre enfant soit exposé finalement à vos bactéries, à votre microbiote, parce que c'est ce qui renforce son système immunitaire, c'est ce qui l'empêchera d'avoir des maladies digestives ou de l'asthme, etc. Donc il y a tout un regain d'intérêt pour ces bactéries finalement qui nous nourrissent et qui nous aident, voire même sans lesquelles on ne pourrait pas survivre. Et cette idée d'écologie intérieure, elle est très forte, parce que c'est l'idée que à la fois mon corps, mais aussi la Terre, finalement, ne peuvent survivre, en tout cas que la vie ne peut se développer sans une forme d'équilibre entre espèces, voire même de symbiose. Les chercheurs parleraient de l'homéostasie terrestre, mais de la même manière que sur la croûte terrestre, il ne peut pas y avoir de vie sans cette prolifération de micro-organismes. De même, mon corps, mon organisme lui-même, ne peut pas survivre s'il n'est pas protégé, nourri, aidé par ce compagnonnage avec le micro-vivant qui peuple à la fois notre peau, nos orifices et notre ventre.
Et on redécouvre donc cette richesse microbienne, une partie d'ailleurs du vivant qui n'échappe pas à une menace d'extinction. On en a parlé d'ailleurs abondamment avec le biologiste Marc-André Sellos, qui sera d'ailleurs notre invité à votre place demain, ici même, Anne-Sophie Moreau, puisque vous le citez aussi dans votre livre, lui qui parle de la saleté propre, hein, c'est sa formule, oui, pour nous dire qu'il faut cultiver au fond ces microbes, oui, et ces bactéries.
Et qui s'intéresse beaucoup au microbiote des sols, c'est-à-dire que voilà, à la fois dans nos entrailles et dans la terre, nous avons besoin de cultiver cette diversité du vivant.
Il y a plein d'histoires, d'anecdotes que vous racontez également dans ce livre, comme au 19e siècle, où un bactériologiste russe se demandait pourquoi les paysans bulgares vivaient si longtemps, et il découvre pourquoi.
Et oui, alors c'est Élie Metchnikov, effectivement, qui était un post-pasteurien du temps de Pasteur, on va dire, qui s'est intéressé au fait que le yaourt, ou en tout cas que certains lactobacilles du yaourt bulgare, finalement aidaient à préserver la flore intestinale. Mais il allait plus loin, puisqu'il a écrit aussi tout un traité où il prétendait, ou en tout cas il espérait, que le yaourt nous aide à conquérir une forme de longévité, voire même d'éternité.
Donc les fameux yaourts bulgares, ça remonte à ça.
Oui.
Et c'est même grâce à ces découvertes que Danone va démarrer en fait son industrie aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Et c'est ce qui est repris aussi. Alors, puisque évidemment toute mode est toujours reprise par le capitalisme, hein, mais il y a aussi des marques qui ont tenté, par exemple comme Actimel, de vous vendre l'idée que voilà, en achetant leurs produits, vous alliez résoudre tous les maux, etc. Ouais. Et si vous allez aux États-Unis, en Europe c'est interdit, hein, d'écrire sur des produits alimentaires que ça va vous aider à lutter contre le cancer ou que sais-je, à raison. Ouais. Mais aux États-Unis, si vous allez dans un supermarché, vous verrez des rayons entiers de probiotiques où l'on vous explique que telle bactérie, telle petite espèce de bactérie va vous aider à lutter contre les troubles du sommeil, de la ménopause, la dépression, que sais-je, vous aider à retrouver l'être aimé. Voilà, donc il y a aussi évidemment tout un marketing de la bactérie, ouais, parfois abusif, mais en tout cas qui en dit beaucoup sur la manière dont nous nous sommes réconciliés avec les microbes.
Anne-Sophie Moreau, il y a une autre histoire de yaourt que vous racontez, c'est celle de Cecilia Westbrook, une étudiante en médecine du Wisconsin qui en 2015 a défrayer la chronique avec son Vagi-yaourt. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît?
Alors, le Vagi-yaourt, comme l'ont appelé les médias à l'époque, c'était un yaourt qu'elle a concocté à partir de ses sécrétions vaginales. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a utilisé l'équivalent des lactobacilles que nous avons dans notre flore vaginale, qui sont assez proches des ferments utilisés pour transformer le lait en yaourt. Et elle a obtenu un dessert assez proche du yaourt bulgare, sans doute. En tout cas, elle en était assez contente. Et ça a beaucoup amusé à l'époque. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans son récit, c'est qu'elle disait qu'elle avait apprécié le fait de pouvoir produire quelque chose qui lui était propre. Alors là, on entend la polysémie du propre, en l'occurrence, oui, on est dans la saleté propre, mais on est aussi dans l'idée que, finalement, vos microbes vous appartiennent, qu'ils vous sont unique.
C'est une composante de votre personnalité aussi, oui. Hein. C'est ça l'idée pour elle. Hein.
Bien sûr, parce que alors, votre identité, elle est composée aussi par ces milliards de bactéries qui peuplent vos entrailles et qui vous sont propres au sens où, déjà d'une part, vous avez ce qu'on appelle un héritage microbien, vous héritez d'une partie de la flore microbienne de vos parents et surtout de votre mère au début, et ensuite votre identité microbienne, elle est informée, transformée par les expériences que vous menez, par ce que vous mangez, par les produits du terroir dans lesquels vous êtes élevé. Et donc, il me semble aussi que dans un monde, vous voyez, où tout est devenu si artificiel, où nous avons peur d'être copiés, vous voyez, on est face à l'intelligence artificielle, on a l'idée que la technique pourrait nous remplacer, que nous pourrions télécharger notre cerveau sur un disque dur, que sais-je. Il me semble que nous avons besoin de plus en plus de revenir à notre corps et d'essayer de retrouver ce qui nous définit, ce qui nous rend unique. Et il me semble que c'est intéressant que nous allions le chercher, non plus dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit, en nous disant finalement que nos tripes sont irremplaçables.
Anne-Sophie Moreau, il faut rappeler quand même que derrière ce phénomène aujourd'hui de la fermentation, il y a énormément de pays du monde pour lesquels il s'agit d'une nécessité. Hein. C'est pas du tout un effet de mode. C'est-à-dire que la façon de conserver les aliments concerne beaucoup de peuples et de pratiques. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans ce que vous racontez, c'est la façon dont ça permet aussi de convoquer d'autres façons de vivre ensemble. Il y a tout un pan intéressant aussi dans ce rapport à la fermentation. Vous l'avez un petit peu dessiné déjà tout à l'heure, mais c'est cette façon communautaire, festive, de finalement s'approprier ces ferments et pour se les donner de main en main, en dehors aussi d'un diktat du marché, du capitalisme.
Oui, alors, oui, parce qu'effectivement, le ferment ne s'achète pas. En tout cas, ça ne se fait pas de vendre des grains de kéfir. Non, vous devez les donner à votre voisin. Et donc, il y a l'idée, en fait, qu'on va s'affranchir du système de distribution d'une société considérée comme étant structurée de manière verticale, vous voyez, où des autorités viennent vous livrer votre nourriture. Donc, vous voulez vous en affranchir. Et il y a l'idée, voilà, qu'on va vivre aussi, entre guillemets, sous les radars de la société productiviste et capitaliste, en cultivant la vie. Il y a aussi dans... Alors, je retrouve aussi cette utopie finalement d'une nouvelle horizontalité des rapports et des échanges dans la fascination qu'exerce le mycélium, voilà, cette partie souterraine des champignons. Bon, vous connaissez les champignons que vous voyez dans la forêt, etc. Mais en réalité, il ne s'agit que des organes sexuels des champignons.
Il y a les réseaux souterrains invisibles, voilà, à l'œil nu.
Et 99% du champignon est formé en réalité par le mycélium, cette sorte de réseau qui s'étend dans la terre et qui contribue grandement à nourrir ce fameux microbiote des sols.
Et vous y voyez une analogie avec une façon communautaire, au fond, de communiquer aussi,
avec
de partager.
Une nouvelle manière de voir la nature. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a eu beaucoup de chercheurs et de penseurs qui ont réfléchi récemment, parce qu'il y a eu de nouvelles découvertes sur ce fameux mycélium qu'on considère un peu comme l'internet de la forêt, qui aiderait. Alors, il y a aussi beaucoup de controverses aussi sur ces découvertes, mais qui aiderait les arbres à communiquer entre eux et surtout les espèces à vivre en symbiose. Et donc, en fait, c'est comme si on sortait du modèle d'une nature vue comme régie par la compétition, dans ce cliché darwiniste d'une nature où il s'agit de lutter pour d'une lutte pour la vie avec une survie du plus fort.
Il y a aussi de l'entraide.
Hein. Voilà, on passe à un nouveau modèle qui est celui de l'entraide et de la symbiose.
Anne-Sophie Moreau, fermentation, pourquoi le moisi nous fascine. On poursuit le voyage avec vous dans un instant, et puis vous répondrez au message qui arrive sur France Inter.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Maître Yupa, vous cherchez vraiment l'être vêtu de bleu? J'ai toujours cru que ce n'était qu'une légende.
Moi aussi, je pense que c'en est une. Obaba me taquine.
Dans ton cœur, tu le sais mieux que personne.
Ma seule quête, c'est percer les mystères de la Foucaille et résoudre l'énigme de la forêt toxique. Je voudrais savoir si l'espèce humaine est destinée à disparaître engloutie par la Foucaille ou s'il lui reste un espoir de survie. Je veux connaître la vérité.
Nausicaa de la Vallée du Vent, Miyazaki, 1984, année de votre naissance, Anne-Sophie Moreau. Sortez donc ce film d'animation, La Foucaille, c'est la forêt toxique, peuplée de bactéries et de champignons, et qui empoisonne, a priori, tout ce qu'elle trouve sur son passage.
Oui, c'est un film, effectivement, que j'évoque, et qui dont la musique me met les larmes aux yeux à chaque fois que je l'entends. Et ce qui est intéressant, c'est le retournement qui s'opère dans ce film, puisque... Donc la terre est recouverte par la foucaille, une forêt qui est considérée comme toxique et qui s'est développée après une catastrophe qu'on devine être une catastrophe nucléaire. Et or, Nausicaa, l'héroïne, se rend compte que cette forêt n'est pas toxique puisqu'elle tombe à travers dans la forêt. Elle se rend compte qu'en dessous, finalement, il y a une sorte de nappe phréatique souterraine et que toutes ces espèces qui étaient considérées comme néfastes et toxiques, en réalité, s'occupaient de purifier, de régénérer la surface de la Terre abîmée.
Cette mer de décomposition, donc, hein, ouais. Avec la putréfaction qui régénère la Terre, morale de l'histoire donc, de Nausicaa, qu'il faut revoir aujourd'hui, de la Vallée du Vent, Miyazaki. Vous rappelez que depuis quelques années, les sorcières ont repris du service dans l'imaginaire collectif, sous les drapeaux du féminisme. Quel est le lien avec la fermentation, Sophie Moreau ?
Oui, le lien, je l'ai trouvé dans les paroles de militantes fermenteuses, voilà, qui se présentent parfois comme des sorcières avec leur chaudron. Alors effectivement, la sorcière a repris du service dans les milieux féministes avec l'essai de Mona Chollet, dont on a beaucoup parlé, où elle comparait finalement la répression qui s'abattait sur les sorcières au cliché qui perdure sur la femme célibataire non procréante et indépendante financièrement surtout. Et j'ai trouvé dans un petit essai d'Anaïs Lecoq qui s'appelle Maltriarcat, voilà l'idée aussi que les brasseuses de bière, qui étaient traditionnellement des femmes, avaient été évincées finalement du brassage de la bière
par l'Église, hein.
Par l'Église et par l'industrialisation aussi de ces procédés. Et surtout, j'ai trouvé dans de nombreux discours de
brasseuses aujourd'hui,
de brasseuses, mais aussi de féministes qui se disent féministes de la fermentation, surtout des anglophones, l'idée que finalement c'est dans la fermentation qu'on trouverait une forme de résilience, déjà parce que les femmes ont traditionnellement été chargées de la fermentation historiquement, mais aussi parce que les femmes finalement vivraient une forme de condition assez comparable à celle des microbes, et la fermentation c'est la vie sans air, disait Pasteur, et ces militantes disent en fait nous les femmes nous vivons aussi comme sous un couvercle sans oxygène et nous devons apprendre à vivre différemment. Alors on pourrait trouver un peu ironique l'idée qu'on va cultiver une nouvelle forme de féminisme en faisant des légumes en conserve. Il y a un petit côté un peu conservateur dont je me moque aussi parfois. Mais je trouve qu'il y a aussi une forme de réconciliation avec les sécrétions. On a parlé tout à l'heure de cette femme qui faisait du yaourt avec ses sécrétions vaginales. Il y a historiquement aussi l'idée que les femmes étaient froides et humides, hein, dans la théorie des humeurs avec Aristote, qui a été très analysée par Françoise Héritier. On a toujours réduit les femmes finalement à une forme de matière toujours menacée par la décomposition, alors que l'homme, lui, serait la forme, l'idée, la pensée, etc.
En tout cas, il y a cette idée que les ferments peuvent être très politiques.
Oui, hein. Donc il y a un retournement du stigmate. En fait, les femmes se réapproprient finalement cette moiteur visqueuse pour dire c'est là qu'est la matrice de la vie, dans une forme de matière féminine.
C'est ça, pour cultiver aussi les ferments de la révolution, dans une envie de changer la société. On peut aller jusque-là finalement, hein, dans l'idée d'étudier ces ferments. Et évidemment, cette passion fermentative qui a un rôle à jouer dans la crise écologique. D'ailleurs, on va en parler tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions et de messages de la part de nos auditeurs et de nos auditrices. C'est le cas de Victoria qui nous dit « Depuis plusieurs années, je fais du kéfir de fruits, du kombucha, du yaourt, des légumes lacto-fermentés. J'ai l'impression d'aider à réduire la pollution de plastique, de faire partie d'une chaîne de solidarité en échangeant mes grains de kéfir et mes recettes, et surtout de combattre les multinationales. » C'est ça qui est intéressant, parce qu'au-delà, effectivement, de boissons dont on pourrait penser qu'elles sont juste des boissons de bobos parisiens, il y a quand même une réflexion qui va bien au-delà, et on le ressent dans beaucoup des messages qu'on reçoit, là, comme celui de Victoria.
Oui, bien sûr, on l'a dit, il y a l'idée l'idée qu'on va s'affranchir du système de distribution capitaliste, cultiver une forme d'autonomie, voire d'autarcie alimentaire. Alors la question, c'est est-ce qu'on n'est pas aussi un peu menacé par voyez, une forme de volonté de retrait voilà, est-ce qu'il s'agit finalement d'une lutte active ou bien est-ce qu'il s'agit aussi d'une manière de renoncer à la lutte, vous voyez, en se disant, voilà, moi, je vais cultiver mon jardin ou plutôt le faire macérer en paix et je ne vais plus me confronter aux grandes puissances, mais essayer de retourner à ce que je peux faire sur
c'est
mon propre territoire.
C'est une autre façon de lutter aussi, finalement.
Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette approche écologique de la fermentation, c'est que, vous voyez, on parle toujours de la nécessité d'avoir de nouveaux récits en écologie et on parle toujours de la décroissance, voilà, qui est une notion essentielle. Il est absolument indispensable de réduire notre consommation de biens, par exemple. Mais on sent bien que ça ne suffit pas à provoquer l'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que la décroissance, finalement, c'est de la diminution, c'est du moins. Tandis que, avec cette réconciliation avec le moisi, en fait, on se réconcilie avec la corruption et donc avec son contraire, pour Aristote, qui est la régénération.
Avec la corruption, on se réconcilie avec la corruption.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une notion de croissance ou de décroissance, mais finalement, dans une recherche de la corruption pour y retrouver une forme de nouveauté, de régénération de la nature.
Alexandre nous dit, quand je gérais des bars à cocktails et des restaurants pour faire un bras de fer aux géants des sodas, je proposais des verres de kéfir deux fois moins chers que les sodas. Vu que je faisais beaucoup de boissons par semaine, j'avais plein de kéfir à donner et ça créait un certain lien social. Les gens changeaient un peu leur façon de consommer. C'était ma lutte, dit-il, à ma petite échelle.
Oui, il y a une sociabilité du ferment qui est touchante. Voilà, les gens en fait apprécient de pouvoir chérir ces formes de vie et les partager entre eux.
Charlotte nous dit, nous faisons notre pain au levain, notre jus de pomme depuis quelque temps en famille, entre amis. À la fois, nous avons mesuré combien c'était un savoir-faire accessible et également délicat. La bouteille de jus mal nettoyée peut exploser. Et je me demande dans quelle mesure ce lien au micro-organisme peut nous aider à nous relier au vivant. Référence Baptiste Morisot, Cyril Dion, dit-elle. Et surtout à notre transition écologique globale.
Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Il y a l'idée qu'on va aller puiser une forme de régénération dans ce micro-vivant. Et je trouve aussi que c'est une forme de maturité aussi de la conscience écologique qui est assez intéressante, parce que pendant longtemps, on a vécu finalement dans la défense de ce que j'appellerais l'écologie du mignon, c'est-à-dire qu'on défend, vous voyez, les gentils dauphins, les ours, les loups, etc. Ce qui est très bien, hein. Mais voilà, on s'intéressait à ce qui était visible. Or, aujourd'hui, on est arrivé à un stade de conscience écologique où on est capable finalement de développer une forme d'empathie pour non seulement des espèces minuscules, quoi, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui n'ont pas de visage, qui sont à l'opposé de notre propre forme de vie. Ça, je trouve ça très intéressant et stimulant.
Justement, Florence demande quelle est la position des végétariens, végétaliens, véganes au sujet de ce type d'aliments, puisque composés d'organismes vivants.
Oui, bah c'est une bonne question. Que sont les bactéries ? Est-ce qu'on essaye de les rapprocher plutôt des animaux ou plutôt des plantes ? Bon, on pourrait se poser aussi la question de savoir s'il faut manger des plantes, parce que ce sont aussi des êtres vivants. Voilà, effectivement, nous sommes des êtres vivants et nous sommes aussi composés de bactéries. La question, c'est de savoir si vous êtes dans un rapport d'exploitation de vos propres bactéries ou bien est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de vivre en symbiose avec elles ?
Lise nous dit « Oui, pour moi, le compost est divin. À partir de la pourriture la plus infâme, vous venez être une orchidée très belle. »
C'est sublime. La vie renaît du moisi. Mais il me semble aussi qu'à travers la pratique du compost, je vous l'ai dit, il s'agit presque aussi d'une forme de rituel symbolique. Au fond, nous savons que nous avons tellement contribué à détruire la nature que nous ne pouvons lui redonner que très peu. Et donc le compost aujourd'hui dans nos foyers, il me semble que c'est un petit peu l'autel sur lequel nous venons finalement donner un maigre sacrifice pour finalement nous faire pardonner d'être une espèce invasive.
Est-ce qu'il y a une idée assez morbide de la décomposition au fait aussi dans cette affaire de ferment ?
Oui, bien, c'est toute la question. Je m'intéresse aussi dans ce livre, par exemple, à tout un tas de modes et de mots, de termes qu'on entend. Vous voyez, par exemple, il y a tout un hashtag sur les réseaux sociaux aux États-Unis qui s'appelle le bed rotting, l'idée que vous allez voilà, rester moisir sur votre lit plutôt que de faire quoi que ce soit, ou bien le brain rot, vous allez passer votre journée vous allez laisser votre cerveau pourrir en scrollant sur Internet, etc. etc. Et la question que je me pose aussi en conclusion de cet essai, c'est est-ce que notre facilité fascination pour le moisi voilà, relève finalement d'une sorte de fascination morbide pour le déclin, la dégénérescence et d'une forme de dépression à l'échelle de l'espèce, voilà, puisque nous avons l'impression que notre action est tellement néfaste pour notre environnement que finalement mieux vaut nous allonger, nous laisser mourir et voire même disparaître de la planète, nous auto-composter après notre mort, ou bien est-ce que nous allons au contraire puiser dans cette énergie du micro-vivant l'énergie et l'envie de l'action, notamment de l'action pour l'écologie, et cultiver au contraire une forme de renaissance et les ferments de la révolution.
Françoise nous dit ne pas oublier que c'est un mode de conservation qui ne consomme aucune énergie, contrairement à la congélation et aux conserves, et c'est consommable dès l'ouverture.
Oui, bien sûr. Le ferment, c'est un petit peu comme ce qu'Aristote appelait le premier moteur. Voilà, il est éternel, il se renouvelle en permanence. On parle beaucoup de la croissance, mais la croissance infinie, finalement, elle repose sur l'accumulation de matières mortes, de biens de production, tandis que le ferment lui-même, il se renouvelle. Il est souvent, on ne sait même pas d'où il vient. On l'a depuis des années. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de vous dire d'où vient le ferment, d'où viennent les premiers levains. Et donc ça, il y a quelque chose d'abyssal et de fascinant dans cette pensée.
Merci beaucoup Anne-Sophie Moreau d'être venue aujourd'hui au micro de la Terre au Carré. Ça s'appelle Fermentation, kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine? C'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venue au micro de la Terre au Carré. Et merci à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Au revoir.
Merci, au revoir.